Seb, comment vas-tu?
Ça va très bien, Émile. Car on part en road trip et on amène notre cabaret des curiosités du web dans plusieurs villes du Québec au cours des prochains mois. Dans ces shows live, on explore de drôles d'histoires qui parfois nous font rire et parfois nous terrorisent. Les histoires changent à chaque show.
Le tout débute à Gatineau le 27 avril dans le cadre du Festival Transistor. Après, on se retrouve à Shawinigan le 13 juin au Wabasso avec nos amis de Côté Sombre. Et le 11 juillet, on se retrouve à Longueuil dans le cadre du Comic Fest à la salle Fanplast. Les billets sont en vente pour tous ces shows-là et d'autres dates risquent de s'ajouter sous peu, donc restez à l'affût.
Rendez-vous au distorsionpodcast.com pour connaître toutes nos dates et vous procurer des billets. Si vous souhaitez que Distorsion passe faire un tour dans votre région, écrivez-nous. On a vraiment hâte d'aller à votre rencontre.
De retour à votre programme principal. Nous sommes déjà à cette époque de l'année où les esprits malfamés, les tueurs en série ou encore les événements paranormaux se manifestent.
Il s'agit aussi de cette époque où vos podcasteurs préférés se manifestent et vous présentent des histoires qui feront suppurer de tous vos orifices purulents les frissons de vos peurs les plus intimes.
Ce soir, trois histoires inédites jamais abordées dans nos podcasts qui mélangent faits historiques et technologies vous feront rester éveillés
tout au long de la nuit, c'est garanti.
Préparez-vous un petit verre de bière, de whisky ou de tisane. Enrobez-vous d'une couverture avec votre chat. Verrouillez bien vos portes et vos fenêtres. Dites à vos proches que vous les aimez, car voici le spécial Halloween de Distorsion et Ars Moriendi.
Comment ça va les gars? Sébastien Lévesque, Simon Prêtre, autour de la table ce soir.
Salut!
Ça va bien vous autres?
Ben oui!
C'est épeurant de vous voir!
Oui! Toujours un petit moment spécial cet épisode d'Halloween. C'est toujours pour nous une raison. On se force pour revoir Simon. Hein. Comme oui. ça nous donne une raison, pour le revoir, boire une petite bière avec lui et puis raconter des histoires. On revient, on est des hommes de tradition.
Oui.
Donc je crois
c'est
que
c'est... d'apprendre que vous devez vous forcer pour me revoir.
Bon. C'est pas ça le point, Simon. C'est pas ça le point. Ça doit faire environ 5 ans qu'on fait ce spécial-là. Ça fait-tu déjà 5 ans ou on l'a pas fait notre première saison?
La première année.
On connaissait pas Simon. Ça doit faire 4 fois environ.
C'est, oui, au minimum. Oui, oui, ça fait au moins 4 fois, plus le spécial Noël.
Oui, c'est vrai.
Puis des beaux cadeaux.
Puis à chaque année, en fait, il y a toujours des histoires qu'on raconte qui demeurent, je pense, parmi les préférées de nos auditeurs. Souvent, les gens nous reviennent avec, même encore cette année, les gens nous revenaient avec, vous vous rappelez, ce cas de hantise sur Facebook.
Oui,
avec
Messenger,
exactement, sur Facebook Messenger. Donc, encore une fois, cette année, on a un bel amalgame d'histoires qu'on connaît pas. En fait, c'est une surprise pour chacun d'entre nous ce soir. C'est ça le concept.
Oui, exact.
Parce que c'est ça, on s'en fait parler beaucoup des spéciales Halloween. On dirait que c'est en train de devenir notre spécial Halloween comme avec les Simpsons, là, tu sais.
Oui.
Ça devient une tradition, puis quand ils l'ont pas, ils sont pas contents.
Oui, exactement.
On aimerait bien s'arrêter, mais vous arrêtez pas d'appeler.
Exactement. Et ce soir, justement, pour nous hydrater pendant ce spécial-là, oui, pendant toutes ces histoires, nous, on boit la bière à la citrouille de la brasserie Lux à 6,5% d'alcool. C'est une bière ambrée qui est une ale brassée avec de la citrouille, de la cannelle, du piment de la Jamaïque aussi. On sent un petit peu quand même épicé. Oui. De la noix de muscade et des clous de girofle. Et de qui est-ce que ça nous vient, cette bière-là, mon Seb?
Oh, cette bière-là nous a été offerte par Pamela, qui est de notre communauté
Patreon, Discord qui est très active. Donc, on te remercie énormément de ce don, de cette tournée de bière que je sais que tu as fait depuis longtemps. Donc, merci à toi. Grâce à toi, ce soir, on pourra boire une bonne bière d'Halloween.
Exactement. Et je crois qu'on avait même une review 5 étoiles.
Oh, bien sûr. Hein? On ne déroge pas des traditions. On a reçu une review 5 étoiles sur Apple Podcast de la part de Pascal qui nous dit « Je vous suis depuis le début de votre aventure et j'espère que vous allez faire ce podcast jusqu'à la fin des temps. »
Yes, j'espère vivre jusqu'à la fin des temps.
Oui, moi aussi. Et il conclut en nous disant « Ma seule déception, les épisodes sont trop courts, j'en prendrai encore plus. »
Faut s'abonner à Patreon pour avoir les after-shows.
Oh oui, là on en a.
Ars Moriendi, j'ai reçu des beaux commentaires cette semaine. Cette semaine, j'ai Ginette qui m'écrit, qui nous dit « Simon, je n'ai toujours pas reçu l'argent de ton loyer. » Ah non, ok, bon ça on repassera. Mais des fois j'en reçois des beaux là.
Et on a reçu d'ailleurs nous un commentaire sur Twitter cette semaine, Simon, qui nous disait « J'ai vraiment arrêté de vous écouter après votre épisode avec la fille dans la boîte. C'était trop effrayant. » Mais on n'a jamais fait d'épisode sur une fille dans la boîte, c'est Ars Moriendi.
Ouais, c'est moi ça.
Donc merci Simon d'avoir découragé une de nos auditrices.
Ah ben je suis toujours là pour ça, hein, vous me connaissez.
Yes.
La mise en demeure est pas loin.
Pour ceux qui connaissent pas Simon Predge, c'est notre grand ami évidemment, c'est l'animateur de Ars Moriendi, un des plus légendaires podcasts de mystère et d'enquête québécois,
mais aussi
Simon, t'es plus que ça, toi t'es un homme multimédia. Parle-nous un peu là en quelques lignes de ce que tu fais sur Frisson TV.
Ah, ben oui, la chaîne Frisson TV, qui est une chaîne câblée de cinéma d'horreur au Québec, c'est la seule chaîne télé indépendante qui reste au Canada.
Ah oui.
Moi, j'écris puis anime une émission sur les films nanar sur Frisson, oui, c'est-à-dire les mauvais films, tellement mauvais qu'ils redeviennent divertissants. On décortique les films, je fais un peu d'histoire du cinéma d'horreur à travers ça. Je suis aussi chargé de projet, donc on travaille toujours sur des nouvelles émissions à venir, puis des nouvelles programmations. Puis sinon, je suis content d'être là, les boys.
mais Distorsion a eu une présence à ton
Oui, ils venaient à l'after show, c'était bien le fun pour le film L'Arcade. Arcade,
oui, exact.
Arcade, un film de réalité virtuelle qui amène ton âme dans le monde digital. En tout cas, c'est tellement niaiseux.
Ouais, j'avais aimé ça, me replonger là-dedans dans ce si mauvais film.
Avec des graphiques volés à Tron.
C'est des bonnes années, le début des années 80 là, pour ce genre de film. La technologie un peu visionnaire, comme on la voyait à l'époque. Ouais.
Exactement.
J'aime ça les mauvais films, moi ça me fait bien rire. J'aime ça juger les gens, je pense.
Oui. Donc, même principe que les années passées, en fait, on a sélectionné trois histoires. On garde Simon en sandwich, donc on a tiré au sort. C'est moi qui ai l'honneur de commencer ce soir. Après, Simon est terminé avec Seb, qui apparemment a peut-être l'histoire la plus
meurtrière
de la soirée. Yes. Donc, si on est prêts, les gars, on se lance pieds joints dans ce spécial Halloween.
Oui, monsieur.
Donc, je me lance, les gars, pour ma première histoire. Écoutez,
let's go, mon gars.
Yes, vous savez que moi, j'ai une petite passion pour ce qu'on appelle le ghost in the machine. Oui. Vous savez, lorsqu'on retrouve du paranormal dans les objets technologiques, les ordinateurs hantés, les téléphones, ces choses-là. Puis aujourd'hui, en fait, c'est une histoire qui touche un peu à ce sujet-là, puis qui est très dans l'air du temps, vous allez voir. On va parler d'intelligence artificielle, mais en plus d'art numérique généré par intelligence artificielle. Donc, une chose qu'on voit beaucoup. Bien sûr, autant dans nos voitures, dans nos maisons, dans notre vie de tous les jours, dans les logiciels qu'on utilise, dans nos ordinateurs, on retrouve plusieurs formes d'intelligence artificielle. Mais plus récemment, au cours de la dernière année, on a vu une énorme progression du côté des générateurs d'images pilotés par intelligence artificielle. Je vous parle de systèmes comme DALL-E, par exemple, comme Midjourney, qu'on a aussi expérimenté, moi et Seb, dans le cadre de Distorsion. L'adore. Oui, on a fait un TikTok, d'ailleurs, là-dessus, sur nos expérimentations avec Midjourney.
D'ailleurs aussi, pour la nouvelle émission à Frisson TV, animée par Benoît Mercier, des Mystérieux Étonnants, l'émission En entretien avec, dans laquelle il reçoit des personnages qui ont marqué le monde de l'horreur au Québec.
Oui, oui, oui.
Dans notre décor, on a mis des cadres, tu sais, c'est une espèce d'ambiance vieille taverne irlandaise.
Oui.
Okay. On a mis des cadres sur le mur et toutes les pièces, dans les le fond, images. Les images qu'on a mis dans les cadres, c'est toutes des images qu'on a générées par AI.
Ah, ben oui, non. Ouais.
Okay.
On le voit de plus en plus, il y a des concours même d'images oui, générées par AI. Il y a aussi Stable Diffusion aussi, qui est un des, comment dire, des systèmes d'intelligence artificielle de ce créneau-là qui gagne en popularité aussi. Puis ça a vraiment chamboulé le milieu artistique là, depuis leur arrivée vraiment. Cette année. C'est vraiment ces systèmes-là ont vraiment perturbé 2022. Selon moi, c'est une des plus grandes progressions technologiques qu'on a eues. On croyait que les NFT allaient l'être au début de l'année, mais avec la chute des cryptos, il y a comme eu une porte ouverte et c'est là qu'on a vu les Midjourney, DALL-E et autres arriver.
C'est parce que là, il y a des artistes qui ont peur de perdre leur job. Là. Si un ordi peut le faire gratuitement, pourquoi qu'on a payé un artiste quelques centaines de dollars?
T'sais? Exact.
Tout à fait. Puis ça amène plusieurs débats éthiques aussi là, autour de ces systèmes-là qui prennent place dans plusieurs sphères de la société. Oui. À ce stade-ci, ces générateurs d'images s'inspirent de ce qui a déjà été créé. Donc, entre autres, ce qu'on va trouver sur Google, puis ce qui a déjà été créé par les communautés d'utilisateurs. Donc, la machine apprend d'elle-même selon ce qu'elle crée, puis selon ce que les internautes lui demandent de créer. Mm-hmm. Donc, c'est un peu en constante évolution. Il s'agit donc d'un art basé sur des idées déjà existantes qui se mélangent entre elles. La plupart de ces systèmes fonctionnent par commande que l'on tape sur son clavier, parfois sur Discord, comme dans le cas de Midjourney. Oui. Et selon la précision de la commande, l'AI se met au travail et génère des images. C'est la précision des commandes qui font en sorte que les images créées vont être plus précises ou plus de qualité, par exemple. Plus la machine effectue de commandes de la part des internautes, plus elle apprend. Mais est-ce possible que la machine dépasse même les commandes des humains parfois? Ou encore, est-ce possible d'éveiller un côté sombre au cœur de la machine? Nous sommes tous régulièrement étonnés par les capacités de l'intelligence artificielle en matière d'écriture et de création, mais qui aurait cru qu'elle avait une telle capacité à inspirer l'horreur? Là, je vais vous parler d'une découverte effrayante qu'un chercheur en intelligence artificielle a fait qui laisse croire que même la machine est hantée par une figure horrifiante. Là. On parle d'une femme mystérieuse et troublante au visage sanglant, désormais connue sous le nom de Loab, L-O-A-B. Et ce système d'intelligence artificielle-là, est-ce qu'il est vraiment hanté par cette femme-là ou est-ce que Loab est plutôt, une confluence aléatoire d'images qui apparaissent dans diverses circonstances étranges? Bonne question. Vous allez voir, je vais vous en parler et c'est assez terrifiant. Tout d'abord, je vais vous parler un peu de ce qu'est un espace latent, donc dans le monde de l'intelligence artificielle, parce que c'est là où se retrouve à quelque part Loab et ces espèces de formes. Simon vient de nous montrer une photo, il vient de googler. On va vous décrire ça du mieux qu'on peut en format audio.
Un beau lapsus,
hein, ouais. Donc, l'espace latent, en fait, c'est un ensemble d'objets dans lequel les objets qui se ressemblent plus sont positionnés plus près les uns des autres. Donc, la position dans l'espace latent peut être considérée comme étant définie par un ensemble de variables latentes qui émergent des ressemblances entre les objets.
Okay.
Si vous me suivez toujours, là, la position de chaque objet peut évoluer et elle est variable selon les ressemblances entre les différents objets. Donc, on peut imaginer que si je fais une comparaison, grossière, que par exemple un visage de femme blonde aux cheveux courts avec des yeux verts, par exemple, va être très près d'un autre visage qui y ressemble. Et c'est comme ça que l'intelligence artificielle fonctionne dans son espace latent, c'est qu'elle va classer des objets de même similarité physique ensemble. Et vous allez voir où ça va nous amener tout ça. On comprend que l'espace latent est infini d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il grandit plus vite que notre faculté à le parcourir. Donc ça, c'est intéressant. On ne pourra jamais faire le tour de tout ça étant donné que ça grandit tellement. Et là, en fait...
Un peu comme les saisons de Virginie.
Oui.
Jusqu'à ce que ça s'arrête, heureusement.
Oui, ça s'est arrêté. Je pense que c'est possible encore de les parcourir au complet. Là. Donc, on imagine...
Mais à quel prix?
Ça, c'est sûr.
C'est au prix de la santé mentale.
Il s'agit certainement, en fait, de la deuxième hypothèse, c'est-à-dire que le cas de Loab, de cette femme-là, est sans doute un résultat, justement, de la confluence des images qui arrivent dans cet espace latent-là. Mais C'est aussi potentiellement une indication que ce qui se passe dans un cerveau d'une AI est plus profond et plus effrayant que nous aurions pu l'imaginer.
Ouais.
C'est-à-dire que, est-ce que, étant donné que l'espace latent d'une intelligence artificielle est un peu infini, est-ce qu'ils n'ont pas la capacité d'imaginer des images encore plus terrifiantes que ce que nous, on peut?
Ben oui, parce que notre imagination est basée sur ce qu'on a déjà vu ou on est capable d'extrapoler, mais ça reste quand même souvent des choses qu'on a déjà vues.
Ou un mélange de... Oui, exactement. On va se faire une idée basée sur ce qu'on connaît, forcément.
Exact. L'intelligence artificielle, c'est la même chose, sauf que, comme tu dis, c'est quintuplé.
Elle la connaît plus, là.
Les bases de données sont infinies, là, donc c'est, j'imagine que ça pointe vers là.
Et pourtant, il n'y a pas de limite à ce que je peux imaginer de terrifiant.
Ça, on n'en doute pas. Je vous ramène à l'histoire. Oui. L'aube, qui est cette femme mystérieuse, a été découvert le 6 septembre 2022 par une musicienne et artiste connue sous le nom de Super Composite sur Twitter. Elle a expliqué le phénomène de l'aube dans un fil de discussion qui a suscité beaucoup d'attention sur Twitter et ailleurs aussi. Vous pouvez tout retrouver ça, c'est encore public. Et ça fait pas si longtemps, le 6 septembre, c'est quand même assez récent. Super Composite s'amusait avec un système d'AI à commande, un peu comme les autres, le Midjourney, pour tenter d'expérimenter des commandes négatives. Hein? Normalement, quand on donne une commande au modèle, il s'efforce de créer une image qui correspond. Si vous avez une seule commande, elle a un poids de 1, d'une valeur de 1, ce qui signifie que c'est la seule chose vers laquelle le modèle travaille. Vous pouvez également diviser les commandes. On peut dire, par exemple, je recherche, ça peut être aussi loufoque, un homme vêtu d'un manteau rouge qui marche dans les rues de l'ombre dans un style surréaliste. Ça va ressembler à ça, une commande qu'on va donner à un de ces systèmes-là. Donc, mais c'est aussi possible de paramétrer ces commandes-là avec des chiffres et de diviser les commandes. Par exemple, de dire « montgolfière 0.5 » ou « orage 0.5 ». Et le modèle va travailler sur ces deux choses. Donc, sur la partie linguistique, évidemment, mais aussi avec la partie du chiffre. Donc, il va d'une certaine façon diviser les résultats ou aller à l'encontre. Et là, vous allez voir, là, c'est un peu absurde ce que je vous dis, mais vous allez comprendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir des commandes négatives, ce qui amène le système à s'éloigner de ce concept le plus possible. Et ce processus est beaucoup moins prévisible parce que personne ne sait comment les données sont réellement organisées dans ces systèmes-là. Donc, personne ne sait quel est l'opposé de quelque chose. Ainsi, si on demande à l'AI une image d'un visage, vous vous retrouverez quelque part au milieu du cerveau de l'AI qui contient toutes les images de visage et obtiendrez l'image d'un visage moyen sans particularité, quelque chose de bien normal, par exemple. Avec une commande plus spécifique, on va se retrouver, par exemple, dans des visages foncés ou des visages de profil, de côté, de face, mais avec une commande à pondération négative, vous faites le contraire, en fait. On fuit ce concept. Mais quel est le contraire, par exemple, de visage ou des pieds ou de l'arrière de la tête? Ben, c'est dur pour nous de le figurer, en fait. Bien que nous puissions en débattre entre nous, dans un modèle d'apprentissage automatique, la décision a été prise au cours du processus d'apprentissage, ce qui signifie que, quels que soient les concepts visuels et linguistiques encodés dans la mémoire, il est possible d'y naviguer de manière cohérente, même s'ils sont un peu arbitraires. Super Composite, je reviens à notre artiste sur Twitter, a joué avec cette idée de navigation dans l'espace latent en donnant la commande Brando égale moins 1, en référence à Marlon Brando, l'acteur. Ce qui a permis au modèle de produire ce qu'il pensait être le contraire de Brando. Et là, il a produit un logo bizarre avec une ligne d'horizon, on dirait des buildings, là, des gratte-ciels, avec un texte absurde, mais qui est aussi lisible, qui semble être écrit « Digita Pentix ». Je vous la montre mon laptop, mais on est loin du visage de Marlon Brando. Donc cette image-là, qui a l'air limite dessinée par un enfant, serait l'équivalent de l'opposé de Marlon Brando.
Ah, ça, là, je trouve ça fascinant.
C'est fascinant.
Parce que je sais pas encore où ce que tu t'en vas avec ça, Mais ça, là, c'est fascinant. Comment que lui a compris, comment oui, que lui a... C'est quoi son calcul mathématique pour arriver avec cette conclusion-là? C'est intéressant parce que ça nous dépasse, tu sais.
Oui. Est-ce que c'est des films, tu sais, des films qu'il n'a pas fait, en tout cas, bref, des affiches de films, en fait, étant donné que c'est plus graphique.
Basé sur quoi?
Oui, c'est...
Non, ça en même temps, une affiche de film de Brando, lui. C'est ça, une affiche de film de Brando... pas le contraire de Brando. Fait que non, qu'est-ce que ça veut dire?
Exact.
C'est ça qui est de valeur avec le AI pour l'instant. Dès qu'on a le résultat, on ne peut pas y demander
par où
qu'est-ce que tu voulais dire
oui, décompiler,
par là.
Oui, décompiler exact. Son processus. Effectivement.
Donc là, on parle d'une, on part de Brando, une photo de son visage, tout ça, et là, on tombe avec quelque chose qui ressemble plus à un logo, en fait, là, qui est très à plat, deux dimensions, comme je vous dis, avec des, on dirait que c'est dessiné par un enfant. Mais l'organisation des concepts du modèle n'aurait pas forcément de sens pour nous. Et Super Composite, étant curieuse, elle s'est demandé si elle pouvait inverser le processus. Alors, elle a mis la commande. En fait, elle a tenté de décortiquer ce dessin-là. Elle a mis le logo de la ligne d'horizon de Digita Pentix. Donc, elle a comme décrit en mots cette espèce de logo-là. Okay. Donc, la ligne d'horizon qui est la ligne avec les buildings et tout ça. On dirait qu'il y a même un genre de CN Tower là, ou l'espèce de tour à Seattle qui est là-dessus. Puis, elle a écrit le mot qu'on voit, le Digita Pentix, là-dessus. Et là, elle s'est dit, ben, si cette image était l'opposé de Brando, peut-être que l'inverse est aussi vrai, puis qu'elle trouverait son chemin vers une photo de Marlon Brando, tu sais. Au lieu de ça, elle a eu ceci. Donc, elle a eu visage de femme. Je le montre à toi, Simon aussi. Vraiment, un visage de femme avec les joues ensanglantées, comme si elle avait été battue. C'est un peu terrifiant. Elle est habillée, elle a les cheveux, en fait, aux épaules, des cheveux bruns, un regard vraiment troublant. Elle a aussi les os de la mâchoire là, sous le nez, là, très caractéristique. Là. Ça fait un triangle presque parfait, vous le savez, les gens qui ont cette caractéristique-là, là, le bone cheek, en français, j'arrive pas à le dire. Et puis, dans cette photo-là, en fait, il y a comme un papier peint derrière elle qui est vert et on semble pouvoir lire, justement, les mots L-O-A-B, donc l'aube, l'autre mot, c'est pas clair, c'est comme R-S-B-O-N, quelque chose comme ça. Il y a quelques mots décrits. Donc, c'est à partir de là qu'on l'a baptisé l'aube, cette femme-là.
Ah, voilà, OK.
Là, vous allez voir, ça s'arrête pas là. C'est assez weird. À plusieurs reprises, Super Composite, la fille sur Twitter, l'artiste, elle a soumis son message négatif avec la ligne d'horizon et le mot, le Digital Pentix, à plusieurs reprises. Puis à chaque fois, le modèle a intégré cette femme-là avec les joues ensanglantées, comme si elle était cachée à quelque part dans les raccoins de l'intelligence artificielle.
Incroyable.
Que s'est-il passé? Super Composite a expliqué comment le modèle pourrait penser lorsqu'il reçoit un message négatif pour un logo particulier en poursuivant sa métaphore précédente qu'elle nous expliquait avant. Elle dit « Vous commencez à courir aussi vite que vous le pouvez pour vous éloigner de la zone des logos », a-t-elle dit, parce qu'elle a tapé le logo avec le moins un, donc l'opposé. Et là, vous vous retrouvez peut-être dans la zone des visages réalistes, car elle est conceptuellement très éloignée des logos. Vous continuez à courir parce que vous ne vous souciez pas vraiment des visages, vous voulez juste vous éloigner le plus possible des logos, donc, quoi qu'il arrive, vous finirez par vous retrouver au bord de la carte, un peu quand on arrive au bout du cercle, là, on arrive au début en fait, et l'aube, c'est comme le dernier visage que tu vois avant de tomber dans le néant.
Okay,
c'est un peu ça selon elle, son explication.
Wow.
Les commandes négatives, je reviens là, à ça, là, ne produisent pas toujours des erreurs et encore moins de façon aussi fiable. Quiconque a joué avec ces modèles d'images vous dira qu'il est peut-être assez difficile d'obtenir des résultats cohérents, même pour des messages très simples. On l'a testé beaucoup, nous, de notre côté. Mais à chaque fois, en fait, puis elle a essayé, je crois, plus de 40 fois avec d'autres mots, avec par exemple un robot debout dans un champ, et à chaque fois qu'elle intégrait le mot « lobe », dont elle a baptisé le visage, le personnage de femme avec les joues ensanglantées apparaît toujours. Wow, donc c'est comme si c'était vraiment son surnom. Donc c'est un peu, elle a commencé à se dire, ben c'est un peu, vous vous rappelez quand on était dans une salle de bain, on regardait le miroir puis on tentait d'attirer
Candyman,
Bloody Mary ou quelque Bloody chose Mary, comme
oui,
ça.
Oui. Là. Ouais, mais attends, je veux juste soulever une question puis. Si tu comprends où je m'en vais puis que tu vas en parler, coupe-moi, hésite pas, OK? Mais là, ils ont soulevé cette question-là de cette femme-là où, sur Internet, où est-ce que le AI va chercher son information? Bien, sur Internet. Fait que c'est sûr que tu commences à écrire l'aube. La femme, elle va toujours popper. C'est là que c'est notre faute, non?
C'est entre autres une partie de la réponse, Simon. C'est sûr que ça contribue à alimenter la bête. Là, d'une
plus
certaine
on en
façon.
Parle, plus le AI va le sortir puis, au final,
oui,
je pense.
Oui, exact. Puis ça se peut qu'une fois qu'il l'a généré, si dans toute son indexation de cette image-là, c'est sûr qu'il a dû associer ce mot-là
maintenant,
aussi.
Maintenant, l'aube est associée.
Si d'autres gens le redemandent, ça doit renforcer ce lien-là, là, j'imagine.
Puis c'est exponentiel. À chaque fois qu'on le redemande, ben, ça revient. Fait que là, ça devient un personnage qui prend une place et qui n'avait pas auparavant.
Exact.
Ben oui. Sauf qu'en fait, c'est quand même assez particulier parce que c'est quand même assez difficile d'arriver à deux résultats pareils en utilisant ces systèmes-là.
Ouais, c'est ça qui est impressionnant.
Si j'essaye Dark Web, par exemple, je vais toujours avoir des images différentes. Et là, va savoir avec l'aube, qui était simplement un texte écrit sur le poster, en fait, on tombe toujours sur une variation de cette femme-là.
Oui, c'est vrai.
Ouais.
Donc, ouais, c'est comme si l'aube était un peu un nom de code pour aller rechercher cette figure-là, cette espèce de sorcière qui hante l'AI. Là.
J'ai juste hâte d'aller le tester.
Oui. Et parfois, là, des commandes plus complexes ou combinées traitent une partie comme une suggestion vraiment plus libre. Mais celle qui inclut l'aube semble non seulement dévier vers le grotesque et l'horreur, mais aussi l'inclure de manière très reconnaissable. Qu'elle soit combinée à des abeilles, par exemple, à des personnages de jeux vidéo, à des styles de films différents ou des abstractions, l'aube est toujours au premier plan, dominant la composition avec son visage abîmé, son expression neutre, ses joues ensanglantées et ses fameux os des mâchoires qu'on voit constamment. Là. Il est très rare qu'une image soit aussi cohérente que l'aube et qu'elle hante d'autres images comme elle le fait. Et Supercomposite a spéculé sur les raisons de ce phénomène. Elle nous dit « Je suppose que c'est parce qu'elle est très éloignée de beaucoup de concepts et qu'il est donc difficile de sortir de sa petite zone effrayante dans l'espace latent. » La question culturelle, à savoir pourquoi les données placent cette femme tout au bord de l'espace latent, près des images d'horreur sanglantes, est une autre chose à laquelle il faut réfléchir, a-t-elle déclaré. Puis en combinant différents termes, l'artiste arrive à des images très dérangeantes, presque snuff en fait. Je vais vous en montrer quelques-uns. Elle a tapé « The Angel Hallway », un peu comme le chemin, le hall des anges, avec le mot l'aube. Et puis, elle est tombée sur des images où on croirait que l'aube a complètement poignardé quelqu'un. On tombe vraiment dans le grotesque, dans l'horreur assez extrême.
Ah oui, c'est trash quand même, là.
C'est très trash. Là.
C'est très graphique.
Oui, c'est vraiment digne d'un film d'horreur. Puis elle nous dit même qu'elle nous épargne les pires images qu'elle a reçues. Là.
En plus.
Et il y en a un autre aussi avec la même commande où on dirait carrément que l'aube a assassiné un enfant. Là, et c'est très réaliste. Là.
C'est vrai qu'on dirait un enfant, une tête d'enfant. Hein. C'est trash.
Puis il y a des systèmes d'intelligence artificielle, en fait, qui permettent de combiner différentes images. Puis encore une fois, quand elle fait on appelle ça du cross-breeding, en fait, un peu comme si on combinait des
respirations?
Breeding, comme si on combinait des races d'animaux ensemble, en fait.
Ah, OK, dans ce sens. Breed, B-R-C-E-D.
Je sais pas ça.
Puis en combinant d'autres images, comme elle a combiné une genre de poupée, eh bien, on retrouve encore une fois, c'est fou, hein? On est comme dans une texture de poupée, mais on reconnaît quand même la femme avec, une fois, les joues ensanglantées, puis les lignes. Et puis, même chose ici, je ne sais pas avec quelle autre image, on dirait que l'aube tient des genres de fœtus.
C'est vrai qu'on la reconnaît un peu, même si dans cette photo-là, on dirait plutôt que son visage a passé au feu plusieurs fois. Mais on la reconnaît par sa forme de la mâchoire et son... Peut-être la position de ses yeux aussi.
Il y a toujours des caractéristiques qui reviennent. Ouais. Ça veut dire que l'intelligence artificielle a découpé quand même, tu sais, a décortiqué plusieurs aspects qui composent son visage et l'a associé à elle et qui est capable de reprendre différents aspects et l'appliquer dans d'autres contextes. Puis on dirait qu'il l'a juste... On dirait que justement son espace est seulement dans le monde de l'horreur ou dans le... Je sais pas si c'est à force d'y demander des... Pourquoi qu'elle a une tangente si prononcée?
Ouais, mais ça, et si, fou, à force de travailler sur des AI et des ordinateurs toujours plus puissants, là, le AI a pris le contrôle. Au début, on a eu des articles. Mon Dieu, ce AI compose une chanson. Puis là, on en a parlé. Fait que forcément que ce AI-là l'a vu. Il a fait « Oh, ils peuvent me voir. Faut que je me cache. » Fait que là, depuis, on n'est plus témoin du tout de cette force-là qui est en train de grandir. Et peut-être que cette femme-là, c'est la grande chef du clan des robots méchants qui vont nous... envahir, nous annihiler. On va tout finir comme Terminator. D'un coup, vous m'avez embarqué, les gars. Moi, je pensais qu'en venant ici, on aurait du fun.
C'est un complot.
Exact. Donc, pour terminer, je dirais qu'on n'a pas encore retracé exactement le chemin parcouru par l'intelligence artificielle pour nous rendre jusqu'à l'aube, étant donné que l'espace latent d'un modèle entraîné est vaste et impénétrablement complexe. L'aube n'est pas un fantôme, mais elle est une forme d'anomalie, et paradoxalement, elle ne peut être l'une des nombreuses anomalies qui attendent d'être commandées depuis les zones les plus éloignées et sombres de l'espace latent de tout modèle d'intelligence artificielle. Donc, est-ce que c'est une sorcière cachée au fin fond de l'intelligence artificielle ou encore est-ce une production des hommes?
On n'est pas à l'abri nulle part. Moi, je pensais que sur Internet, t'es correct. Là, quand tu veux te cacher, ben, tu vides ton cache, tu effaces ton historique, t'es correct. Ben non! C'est rendu que les AI, là, ils vont rentrer dans nos maisons à travers l'art. Là. Ben, c'est ça. On est dans la merde, les boys. On est dans la merde.
mais Émile, dis-moi, là, toi qui es quand même toujours un peu sceptique par rapport au paranormal, crois-tu vraiment qu'une AI peut être, hantée ou...
Possédée? Est-ce qu'elle peut devenir vivante, prendre le contrôle elle-même?
On dirait que c'est pas tant ça, moi, qui me donne la frousse avec cette histoire-là. On dirait que c'est plus de savoir, j'imaginais pas à quel point un système d'intelligence artificielle comme ça pouvait avoir une région sombre.
Ouais.
Puis à quelque part, c'est les commandes des internautes qui créent ça.
Ouais.
Donc, pour moi, c'est troublant un peu. En fait, il y a quelque chose qui me trouble en lien avec peut-être ce qu'on demande au AI. Mm-hmm. Les commandes, on les voit pas toutes. Il y en a peut-être qui ont des idées tordues et tout ça. Puis en même temps, là où est-ce qu'elle va chercher ces informations?
Oui, c'est ça qui...
Donc, moi, c'est ce qui me trouble un peu. C'est ce côté dark-là là, qu'on va peut-être voir s'exprimer de plus en plus au fil des prochaines années. Mais il n'y a pas que du beau là-dedans, là, en fait.
Non,
mais
tu me surprends beaucoup quand même, Émile, parce que... Le AI veut pas, il est créé par l'homme, puis il va créer, là, je résume, là, mais il va créer un peu sa psyché, si on veut, par l'entremise des réflexions humaines et sa connaissance qu'on va mettre en ligne, par exemple.
Oui, exact.
Comment peux-tu être à ce point surpris des ténèbres qui peuvent se cacher dans le AI, n'est-ce pas? Très humain,
c'est
toute
clair.
Cette obscurité.
Mais je crois que c'est la première fois qu'on en a une démonstration, en fait.
Ouais,
c'est un peu comme la Uncanny Valley. On se rend compte que on a l'impression que quand quelque chose est ultra réaliste, le moindre petit détail nous fait changer de côté.
Ouais,
mais
je comprends.
On dirait que c'est un peu comme ça aussi. T'sais, on a l'habitude tellement de voir sortir plus du beau. On sait aussi que l'AI a des problèmes avec le posing. C'est-à-dire que souvent, quand elle va nous générer un visage, il sera pas parfait, il sera pas symétrique,
exactement.
Il va être bizarre des fois. Elle n'a pas encore compris le concept de pose, de se tenir droit, tout ça. Donc, c'est normal qu'il y ait des horreurs qui en sortent. Mais de trouver un raccoin comme ça, j'ai l'impression qu'on a trouvé un peu un level caché là, dans un jeu vidéo là, avec cette commande-là.
Oui, c'est intéressant.
J'ai hâte de voir quelles autres commandes mystérieuses vont nous amener là aussi.
Sincèrement, des auteurs de films d'horreur pourraient facilement s'inspirer des images
Je le sais pas, puis je peux te confirmer qu'il y a déjà un film en production. C'est sûr. Les gens attendent pas longtemps, là. Hein? C'est au moins un scénario. Est-ce qu'il va se produire? Peut-être pas. Mais c'est sûr qu'il y a déjà des gens en train de travailler sur quelque chose par rapport à ça.
Yes. Sûr. Alors, mon cher Simon, à toi la parole.
Moi, je vais vous raconter la fois où on a dû annuler les célébrations d'Halloween au Nouveau-Brunswick. Et ce, pour une excellente raison. Il y avait un monstre en liberté dans les rues et personne n'était à l'abri. Il a marqué la mémoire populaire comme le monstre de Miramichi. Dans une maison de Chatham Falls, une petite communauté du Nouveau-Brunswick, Louise a déjà 3 enfants avec un ex-chum alcoolique et violent du nom de Vincent Legere qui l'a déjà abandonné. Elle tombe enceinte une 4e fois et Alan Legere voit le jour le 13 février 1948. Son père est Lionel Como, mais lui aussi va les abandonner peu de temps après la naissance. Les Legere vivent dans la pauvreté, pas étonnant pour une mère monoparentale avec 4 enfants. Puis, comme si c'était pas assez de malheur, Freddy, le frère aîné de Alan, décède après avoir été frappé par une voiture en 1956. À partir de cette tragédie, Louise va constamment dire à son fils Alan combien il aurait préféré que ce soit lui qui meure au lieu de Freddy. Alan a seulement 9 ans. Sans surprise, dans une telle atmosphère de rejet maternel, il va réagir en se refermant sur lui-même. Il grandit en étant extrêmement introverti. Malgré une évidente intelligence, ça se passe pas bien pour lui à l'école. Ses notes sont catastrophiques. À l'adolescence, il va montrer les premières lueurs d'un comportement antisocial. À 16 ans, il commence à entrer par effraction chez les gens du voisinage. Parfois, il s'adonne au vandalisme, parfois au cambriolage et occasionnellement, il va en profiter pour caresser des femmes endormies. Il est arrêté à 2 reprises par les autorités entre 1964 et 1966 et il va passer 18 mois derrière les barreaux. Puis, en 1969, il fait la rencontre d'une jeune infirmière puis il tombe amoureux. Ça calme ses ardeurs criminelles pendant un temps. Le couple va avoir 2 enfants. Ils vont s'installer à North Bay, en Ontario, mais ça ne durera pas. Le couple revient à Miramichi pour le travail en 1972 et Alan se trouve un poste à la Syrie. Mais les vieilles habitudes ont tendance à vite revenir au galop quand la routine et l'ennui s'installent. Il va être arrêté à nouveau pour possession de biens volés peu de temps après son retour dans la région. Il perd bien sûr son emploi et reçoit une sentence de 5 mois de prison. Peu de temps après sa sortie de tôle, sa femme se sauve à Ottawa avec les enfants. En 1974, la police questionne Alan au sujet de meurtre brutal qui a eu lieu dans la région, une résidence de Chatham, Béatrice Mary Redmond. La dame marchait vers chez elle au retour de la messe et elle a été attaquée en pleine rue. On l'a poignardée à 80 reprises.
80?
Puis moi, quand je lis des affaires de même, je le compte pour comprendre comment qu'on peut se rendre là, puis je me suis pas rendu à 80. Là.
Hey, ça n'a pas de bon sens.
Je le ferai pas au micro, mais si vous voulez le faire à la maison, rendu à 15, c'est traumatisant.
Mm-hmm.
Alan Legere est un des principaux suspects, mais les enquêteurs n'ont aucun indice pouvant le relier au crime. Il n'a jamais été accusé officiellement. J'imagine qu'il a eu peur parce que pendant les 10 années suivantes, Alan se tient loin des radars des forces de l'ordre. Mais tout n'a qu'un temps et la bête se réveille en 1986. Le samedi 21 juin, Alan et 2 jeunes complices entrent par effraction dans la demeure de John Glendening et son épouse Mary, 66 ans chacun. Le couple gère une petite épicerie, je dirais même un dépanneur, qui inclut aussi une station de service adjacente à leur maison dans la région de Miramichi. Les 3 hommes les surprennent alors qu'ils regardaient la télé. Un des complices matraque John sur la tête avec une grosse pierre. La bande force ensuite Mary dans la cuisine où il la ligote à une chaise. Ils la battent violemment et ensuite, pendant qu'Alan et un complice s'acharnent de manière brutale sur John, le 3e homme déchire les vêtements de Mary et se met à la caresser. Au salon, Alan continue de frapper John en exigeant la combinaison du coffre-fort. Pour sauver son mari, Mary accepte de l'ouvrir. Alan la détache et l'amène au 2e étage, mais à peine a-t-elle le temps de tourner le cadran qu'Alan l'assomme par 2 fois. À l'arrière de la tête, elle perd conscience. Mary Glendening se réveille avec la tête dans le bol de toilette. Tous ses membres, chaque partie de son corps proteste le moindre de ses mouvements par une douleur agonisante et trouve malgré tout la force de ramper jusqu'au téléphone pour appeler le 911. La police et une ambulance arrivent sur les lieux en quelques minutes. Mary est aussitôt transportée d'urgence à l'hôpital de Chatham. Les médecins découvrent une dame dans un piteux état. Elle a été battue si brutalement qu'un de ses poumons s'est affaissé. Elle a aussi été violée avec un objet contondant, mais je ne donnerai pas plus de détails à ce sujet-là. Au moins, elle est toujours vivante. Hein? Son époux, John, n'a pas eu la même chance, malheureusement. Ils l'ont battue à mort et étranglée.
C'est donc bien horrible. C'est donc bien horrible, l'histoire.
Je m'excuse, c'est une histoire terrible, mais je me suis dit, c'est l'Halloween.
Non, non, c'est parfait.
On peut y aller. Les autorités perdent pas de temps, évidemment. Trois jours après le drame, on procède à l'arrestation d'Alan Leger, 38 ans, et deux de ses complices, Scott Curtis, 20 ans, et Todd Matchett, 18 ans seulement. Les deux jeunes complices passent vite aux aveux, accusant Alan d'être le chef de la bande. Mm-hmm. Alan est trouvé coupable de meurtre le 8 janvier 1987 et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération sous condition avant 18 ans. Une sentence qu'Alan n'a aucune intention de subir. Il va aller en appel, mais il échoue dans sa tentative d'annuler sa condamnation devant la cour d'appel du Nouveau-Brunswick le 8 août 1987. En février 1989, un éminent avocat va même représenter Alan en appel devant la Cour suprême du Canada. Mais voilà, Alan en a assez des procédures qui n'avancent pas et à peine 2 ans après son incarcération, il décide de s'évader de prison. Le mercredi 3 mai 1989, on conduit le prisonnier depuis la prison à sécurité maximale de Renou, au Nouveau-Brunswick, Renouse, probablement, je ne sais pas comment le prononcer, jusqu'à l'hôpital Dumont à Moncton pour un traitement pour ses infections chroniques à l'oreille. À un moment, il demande s'il peut aller aux toilettes et les gardes acceptent. Alan entre dans la cabine menottée et avec les chevilles enchaînées, il a sorti un petit couteau fabriqué à la main de son rectum et il a crocheté la serrure de ses menottes. Ne me demandez pas
il est habile, en tout cas.
De comment il a rentré cela, un couteau, n'importe quoi de coupant. Mais regarde, quand un homme veut la liberté, il trouve toujours moyen.
Il a une bonne, motricité fine.
Effectivement. Il est sorti en trombe de la cabine de toilette et il a menacé le personnel et les gardes avec son couteau. Il a agrippé une infirmière, Peggy Olive, et l'a prise en otage. En la menaçant de sa lame, il s'est écrié « Si quelqu'un approche, je lui tranche la gorge ». Il sort de l'hôpital avec son otage, monte à bord de la voiture de Peggy, son otage, et ensemble, ils prennent la fuite. Une fois assez loin, il a heureusement laissé sortir la jeune femme terrifiée avant de poursuivre sa route pour disparaître. C'est ici que le cauchemar commence pour la population. Une chasse à l'homme est lancée, mais les journées passent, puis les semaines, et au bout d'un mois de recherche, les autorités ont aucune piste. Le fugitif semblait s'être évaporé dans la nature. Ils ont commencé à assumer qu'il devait avoir fui la province et peut-être même le pays. Mais ils avaient tort. Oh, qu'ils avaient tort. Au petit matin du 29 mai 1989, un résident de Chatham remarque de la fumée qui s'échappe d'une fenêtre chez les voisins. Il appelle aussitôt les pompiers qui arrivent rapidement. C'est la demeure des sœurs Flamme. Tout le monde les connaît en ville parce qu'elles gèrent ensemble un dépanneur au premier étage de la maison. Okay. Les pompiers défoncent la porte arrière pour entrer dans la maison en flammes. Au pied de l'escalier, ils trouvent Nina Flamme, sévèrement brûlée mais vivante. On l'évacue et on la conduit d'urgence à l'hôpital de Fredericton. Pendant ce temps, malheureusement, l'incendie se déchaîne et les pompiers n'ont d'autre choix que de sortir de la maison. Ce n'est qu'une fois le brasier sous contrôle que l'on retrouve un second corps. Celui-ci est presque réduit en cendres. C'est Annie Flamme, 75 ans, la belle-sœur de Nina. Leur dépanneur était une institution ça roulait depuis 50 ans dans la petite communauté de Chatham. Okay. Tout le monde les connaissait. Ça a été un coup dur quand même pour la population. Une fois que Nina a suffisamment récupéré, elle a raconté ce qui s'était passé. Un homme cagoulé est entré chez elle par effraction durant la nuit. Il a agressé les deux femmes âgées, 75, 76 ans quand même, là, pour ensuite les battre sauvagement. Il les a laissées pour mortes et a incendié la maison pour faire disparaître les preuves. Le samedi 30 septembre, une autre personne âgée est attaquée. Près de Newcastle, Morrissey Doran, 70 ans, est surpris par derrière dans sa maison par un gars qui lui demande de l'argent en le menaçant avec un fusil à pompe. L'homme cagoulé va lui tirer dans le dos, mais heureusement, par miracle, Morrissey va survivre. Le lendemain, le 31 septembre, Sonny Russell accoste un homme armé d'un fusil à pompe en train d'essayer d'entrer par effraction dans sa demeure. Malgré ses 75 ans, Russell est assez bâti, alors il réussit à repousser son assaillant. Celui-ci va ensuite prendre la fuite et Russell avise la police. Mais au moment où les policiers sont arrivés chez lui pour prendre sa déposition, ils ont reçu un autre appel pour une autre tentative d'entrée par effraction à moins d'un kilomètre de là. Cette fois, à la demeure de Billy Matchett. Il est en fait le père de Todd, un des premiers complices d'Allen dans l'affaire du meurtre Glendening. Pour les autorités, il s'agit d'un indice important. Ils sont maintenant persuadés qu'Allen Legere, toujours au large, est derrière les attaques. La presse s'empare de l'histoire et en fait ses choux gras. Les gros titres sont terrifiants. Ils surnomment le fugitif le monstre de Miramichi. Ça plonge la petite communauté dans une panique angoissante. Les gens se barricadent chez eux, changent leurs serrures. Plus personne n'ose sortir tout seul. Tout le monde est en mode paranoïa. Les ventes d'armes à feu explosent malgré les appels au calme du maire qui ne sait plus quoi faire pour les rassurer. Les citoyens sont en colère contre la police et menacent de se charger de se faire justice eux-mêmes. Le samedi 14 octobre, au matin, un pompier volontaire remarque de la fumée qui s'échappe d'une maison de Newcastle à 10 minutes de route à l'ouest de Miramichi. Il alerte aussitôt la caserne et les pompiers se précipitent à l'intérieur à la recherche de survivants. Dans la chambre au deuxième, il trouve Donna Donny, 41 ans, couchée dans son lit. Sur le sol, juste à côté, est allongée sa sœur Linda, 45 ans. Aucune des deux respire. L'autopsie va révéler plus tard que les deux ont été violés et atrocement battus. Donna est morte de ses blessures, tandis que Linda aurait survécu juste assez longtemps pour mourir asphyxiée par la fumée de l'incendie.
Mon Dieu.
Je sais, c'est un cauchemar. La surveillance de la police est doublée dans toute la région. La presse de partout au pays débarque dans la petite communauté, attirée par le drame comme la misère sur le pauvre monde, en quête de sensationnel. On instaure donc un couvre-feu. Et aux grandes dames des tout-petits, on annule la fête d'Halloween. Pas question que les enfants fassent du porte-à-porte, c'est trop risqué. Le 16 novembre, des fidèles arrivent à l'église de Chatham pour la messe de 19h. Ils sont surpris de trouver l'église vide et dans l'obscurité. Comment ça se fait que les lumières sont éteintes? C'est pas normal. Ils se mettent à appeler le père James Smith. Aucune réponse. Un des paroissiens décide d'aller voir dans le presbytère pour enquêter. Il fait juste un pas avant de reculer, complètement sous le choc. L'endroit est dans un désordre total. Des meubles ont été brisés et jetés par terre. Il y a de la vitre brisée partout. Mais surtout, du sang, beaucoup de sang, recouvrant les murs et le plancher. La police arrive rapidement sur les lieux et découvre le curé James Smith gisant dans une mare de son sang. Il a été battu et c'est même évident qu'il a été torturé avant sa mort. On lui a fait plusieurs entailles profondes avec une lame dans son visage et sa cage thoracique est écrasée. L'autopsie va révéler qu'il est décédé. Désolé, c'est pas super agréable à entendre. En s'étouffant dans son vomi. Suite au meurtre, la police a encore une fois intensifié ses efforts. Des policiers même de d'autres régions avoisinantes sont venus en renfort pour essayer d'attraper Allen Legere. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'à ce moment-là, il est parti se cacher à Montréal.
Ah oui.
Il est resté à l'abri des regards jusqu'au jeudi 23 novembre. Ce soir-là, de retour au Nouveau-Brunswick, Allen fait signe à un taxi de la ville de Saint-John de s'arrêter et monte à bord. Il sort alors un revolver et menace le chauffeur, Ron Gumke, 21 ans, de le conduire à Chatham. Durant la route, il donne son identité au chauffeur et il raconte qu'il planifie de détourner un avion pour s'enfuir en Iran.
Oh.
Puis là, oui, ça, c'est un peu drôle. Moi aussi, j'ai trouvé ça en Iran, le camtenaire.
Oui, c'est ça. Pourquoi?
Malheureusement pour le monstre de Miramichi, son plan ne se passera pas comme prévu. En sortant de Moncton, le chauffeur perd le contrôle du taxi et s'écrase dans un fossé. Allen sort du véhicule en titubant et fait signe à une voiture de s'arrêter. Celle-ci s'arrête et Allen sort son arme pour menacer la conductrice, qui s'adonne être, par un heureux hasard, une policière en congé. Allen la force à le conduire à Chatham. Elle l'avise qu'ils vont être obligés de faire un arrêt pour faire le plein dans une station-service. Rendu devant les bornes d'essence, elle a trouvé moyen de le déjouer et de prendre la fuite à bord de sa voiture, abandonnant Allen derrière. Elle a aussitôt appelé des renforts, mais Allen a tenté un dernier geste désespéré. À la pointe de son arme, il a forcé un chauffeur de camion, Brian Golding, à le conduire. Il a foncé sur lui en criant « Je suis Allen Legere et on s'en va à Moncton ». La police a tenté de leur bloquer la route avec un barrage, mais ils ont continué sans même ralentir en les contournant. Les véhicules de patrouille les suivent, mais avec une petite distance. Ils sont pas trop près. Ils veulent savoir ce qui va se passer. Environ une demi-heure de route plus tard, le chauffeur informe Allen qu'il n'est plus capable de conduire. À ce stade, il est environ 5 heures du matin, il est épuisé. Allen, qui semble pas se douter que la police est pas loin derrière, accepte que Brian s'arrête en bordure de route un instant pour qu'il puisse prendre le volant. Le camionneur se stationne et sort du véhicule. Il se met à courir en direction des voitures patrouilles en criant « C'est lui, il est armé ». On a pu enfin procéder à son arrestation. On lui a crié de lâcher son arme, il l'a lancé par la fenêtre, il est descendu du camion et on lui a passé les menottes. Le procès de Allen Legere a débuté le 26 août 91 au tribunal de Fredericton. Il a été accusé de 4 homicides seulement. À peine 2 jours plus tard, le jury rend son verdict de culpabilité. Le juge le condamne à la prison à vie. Il ne sera probablement jamais libéré. Il est éligible à une libération conditionnelle depuis novembre 2012, okay. Mais aussi récemment que janvier 2021, on lui refusait encore une fois sa liberté à cause des risques qu'il représente.
Oui, risques de récidive. Est-ce qu'on sait à peu près au total, approximativement, combien de meurtres qu'il aurait commis? Parce qu'il est accusé pour 4, mais
il est accusé de 4, c'est juste parce qu'on manquait de preuves, d'informations à l'enquête pour 2 autres.
Oui.
On aurait pu, mais c'était... Tu sais, on fait souvent ça quand il y a plusieurs meurtres.
Oui, de toute façon,
il va se concentrer sur ce qui est nécessaire ou sur ce qu'on a assez de preuves.
Oui.
C'est juste parce qu'il y avait d'autres cas où c'était plus chambrant. Ils ont décidé de se concentrer sur ceux qui étaient évidents.
Mais là, ça donne quoi, 6-8 personnes? C'est combien?
Il me semble que c'est 6 au total.
6, okay.
Sauf qu'on pense qu'il est peut-être coupable d'un autre meurtre là, par le passé, si je ne me trompe pas, en 84.
Oui.
Okay. Mais tu sais, dans le fond, si on fait en 86, il a tué une personne est morte, l'autre a survécu.
Oui, c'est
Ensuite, il s'échappe de prison. Il en a tué 2. Par la suite, il y a un autre cas. Il y en a une qui a survécu. C'est ça. Au final, on est à 6 à peu près. Là.
OK, quand même. Hein. Mais il y a tellement terrorisé de gens.
Mais
je me rappelle de cette histoire-là.
C'est clair.
Oui, parce qu'on était jeunes, mais on s'en souvient quand même.
Oui,
ça avait marqué. Là. Parce que ça, pour annuler l'Halloween, c'est une chose, là, mais...
Bon, on l'a fait à Montréal parce qu'il pleuvait, là,
oui,
il n'y a
pas
si longtemps.
Beau,
c'est ça. C'est pour ça que je dis, bon, c'est une chose, là, mais tu sais, quand c'est une ville entière, plusieurs communautés voisines qui sont terrifiées de sortir parce que personne n'est à l'abri, là, ça, c'est une horreur, là, tu sais.
Oui, exact.
Ça doit être tellement, tellement dur sur une communauté.
Oui, exact. Merci, Simon. Très bonne histoire.
La fois où on a annulé Halloween au Nouveau-Brunswick.
Yes, avec une histoire canadienne en plus.
Oui.
Et là, on se prépare parce que Seb, c'est toi qui close aujourd'hui avec ton histoire terrifiante.
Oui. Ce soir, les gars, je vous raconte un Halloween meurtrier, le massacre de la famille Lisk. Nous sommes le dimanche 31 octobre 2010 à Sandusky, en Ohio, aux États-Unis. C'est un dimanche matin typique pour Devon Griffin, 16 ans, alors qu'il revient chez sa mère Susan Lisk, 46 ans, après la cérémonie du dimanche à l'église où il donnait un concert. Il avait passé le week-end chez son père biologique. C'est assez rare des enfants de 16 ans, encore aujourd'hui, je trouve, qu'ils donnent des concerts à l'église. Ça m'a surpris.
C'est parce que tu ne connais pas la communauté chrétienne.
Oui, non, exact.
Eux autres, c'est tous les vendredis. Moi, j'ai grandi avec un ami qui était obligé d'y aller à ce qu'il appelait, dans le temps, la « jeunesse », entre guillemets. C'est-à-dire, là, c'était, au lieu d'être le dimanche, c'était pour les jeunes, c'était le vendredi, il appelait ça la « jeunesse
okay. ».
Puis des fois, parce qu'on voulait s'amuser avec lui après... Ben, on allait le rejoindre à l'église, puis on subissait le show cauchemardesque d'ados qui chantaient, puis qui parlaient de l'actualité. Mais bref, il y en a beaucoup, mais c'est juste moins notre communauté religieuse. Là,
oui, puis aux États-Unis, il y a plusieurs États où c'est encore très populaire. Tu as même des chanteurs-chanteuses très populaires maintenant qui ont fait leur début à l'église.
Oui, non, tu as raison. En arrivant à la maison au 7052 North Ohio 2, il ne fait pas trop attention à son environnement et se dirige immédiatement vers sa chambre pour se livrer à quelques heures de plaisir, en jouant à des jeux vidéo.
J'ai eu peur.
Oui. Donc, Devon s'amuse en ce beau dimanche après-midi. Hein, donc, il essaie de prendre un peu de temps pour lui. Cependant, à mi-chemin de sa partie, vers 13h30, il commence à réaliser que la maison est un peu trop calme pour cette heure de la journée. La famille Lisk est toujours bien active à ce moment, que ce soit Derek, 23 ans, son frère aîné, ou même William E. Bill Lisk, 53 ans, son beau-père, sans parler de BG, 24 ans, son demi-frère. De plus, considérant que c'est l'Halloween ce soir, l'excitation est supposée être présente dans la maison, mais ce n'est pas le cas. Où est le reste de sa famille?
Ah non, j'aime pas ça où ça s'en va, ça.
Un peu confus, Devon se dirige vers la chambre de ses parents, pensant qu'il allait peut-être les réveiller. Il avait peut-être mal dormi la veille, s'est-il dit. En entrant dans la chambre, il les voit tous les deux avec leurs couettes de lit couleur marron tirées sur leur tête. Étrange. Devon se met à leur parler avec l'espoir de les réveiller en douceur. Cependant, il n'obtient aucune réponse. Sa panique commence à monter alors qu'il se dirige vers le côté du lit de sa mère et voit son pied dépasser dessous les couvertures. Il lui tapote alors la jambe pour la réveiller. Pas de réponse. Il retire la couverture de sur elle et William. Jamais il n'aurait pu imaginer une telle scène d'horreur. La tête d'oreiller était imbibée de sang. La stupéfaction lui glace le sang quelques instants avant qu'il ne reprenne ses esprits. La première chose à laquelle il pense fut que sa mère lui faisait une farce d'Halloween. Mais alors que la scène devant lui devenait nette, il savait que ce n'était pas une farce.
C'est ça
que
j'étais en train de me dire, excuse-moi de te couper.
Oui, vas-y.
Je m'en allais dire, j'espère tellement que c'est pas un mauvais gag, c'est pas une joke à faire à un enfant.
Non,
là.
Il a juste 16 ans.
Ouais, c'est ça, là, c'est encore un jeune, là.
Il se met alors à crier et à pleurer et court en dehors de la maison à toute vitesse pour demander de l'aide à sa tante Laurie Morse, qui habite heureusement tout près. Elle appelle immédiatement les autorités. Mais qu'est-il arrivé à la famille Lisk? Les policiers arrivent sur les lieux du drame. Devon les dirige immédiatement vers la chambre de sa mère. La scène est consternante. Des éclaboussures de sang couvraient les murs. Il a été révélé que William, Bill, le beau-père de Devon, avait reçu une balle dans la tête et 5 balles au visage. D'autre part, Susan, sa mère, quant à elle, avait été agressée sexuellement avant de recevoir 3 balles dans la tête à très courte distance, avec une blessure défensive à la main. Donc, elle a vraiment essayé de se protéger. Le père a probablement été abattu en premier car son corps a été retrouvé dans une position de sommeil naturel. Les autorités se dirigent ensuite vers la chambre de Derek, que Devon avait oublié de vérifier lors de sa paniquante découverte. Derek, c'est son demi-frère. Cependant, la porte de sa chambre est verrouillée de l'intérieur. Étrange. La police la défonce et remarque Derek en boule sur son lit, le dos tourné vers eux, le visage tourné vers le mur à côté de son lit. Il est immobile. Son autopsie a révélé qu'il était mort d'un traumatisme contondant à la tête. Il avait été atteint plusieurs fois avec le fusil à clous. Mais le coroner a déclaré qu'il était probablement mort, heureusement, du premier coup. Aucune douille n'a été trouvée sur les lieux et le tueur a pris le temps de les ramasser pour brouiller les pistes. Il n'y avait aucun signe d'infraction ou de vol.
Bizarre.
Là, s'il a ramassé les deux. Au début, je me suis dit, hey, et si c'était un des enfants de la famille, ils ont l'air d'être nombreux. Mais là, s'il a ramassé les deux, j'ai pas le réflexe de penser que c'était un ado qui a fait ça. Là.
Ah ouais, puis le marteau à clous.
Non, c'est ça. C'était trop intense pour être un fils. Là. Ça, fils peut tuer violemment au couteau avec une arme à feu, mais un gun à clous, tabarouette.
Mais le gun à clous.
Faudrait y en vouloir en maudit.
Ça serait pour le silence que ça procure, en fait, que ça aurait été utilisé.
J'ai hâte de voir où ça s'en va, là. Je veux pas trop en dire parce que je sais pas si c'est le fin mot de l'histoire, mais je commence à être angoissé, j'ai hâte que tu y arrives.
Oui, c'est une histoire angoissante. Les enquêteurs ont soigneusement fouillé la maison et le terrain. Sur une amarrée près d'un étang tout près, ils ont trouvé une empreinte de bottes boueuses. La police pense que le tueur a peut-être marché jusqu'au bout du quai et a jeté les armes du crime dans l'eau. Pourtant, l'étang a été vidé, mais aucune arme a été trouvée. En quelques heures, évidemment, ça ne s'est pas fait la journée même, là, le vidage de l'étang.
Oui, ça c'est quand même long. Là.
En quelques heures, Devon avait perdu toute sa famille. Qui massacrerait 3 membres de la famille? Quelqu'un qui connaissait les Lisk? Un étranger? Des membres d'une secte bien excités par l'Halloween? Qui sait? C'est assez étrange. Là. À ce moment-là, là, tout le monde se questionne. Devon devient malgré lui le premier suspect. Il n'y a aucune trace de lutte dans la maison, donc c'est quelqu'un de l'entourage. Cependant, il est rapidement écarté car les voisins affirment avoir entendu ce qui ressemblait à des coups de feu vers 6h30 du matin, alors que Devon était avec son père, donc son alibi est solide. Cela correspondait à l'heure du décès de Bill et de Suzanne en plus, là, les deux parents. De plus, ses antécédents n'ont montré aucun drapeau rouge qui suggérait qu'il serait capable de faire quelque chose comme ça non plus. Cependant, il y a un membre de la famille qui a un passé trouble et qui brille par son absence. Mais où est B.J. Lisk? B.J. Lisk, c'est le fils de Bill William Lisk. Ouais. Donc, même B.J. s'appelle William aussi. Là, donc,
ça s'en va ce que j'avais peur que ça s'en aille. Hein, c'est ça qui arrive.
Après avoir rapidement trouvé des preuves comme des traces de pas boueux à l'intérieur qui correspondaient à la taille des bottes de B.J. et les traces près de l'étang, le marteau à clous familial qui était couvert avec le sang de Derek, eux, le fait que c'est un outil de la maison qui a été utilisé aussi, ça le pointe vers ça. Et également, comme je vous disais, qu'il n'y a eu aucun signe de lutte, donc c'est quelqu'un qui était supposé d'être là, du moins, là. La police avait une bonne idée du meurtrier. Les autorités se mirent rapidement à la recherche de William B.J. Lisk, 24 ans. Mais avant d'aller plus loin, pour comprendre un peu plus ce qui est arrivé, on va faire un bond dans le temps et analyser un peu la situation familiale. La famille Lisk a vu le jour lorsque Suzanne et William Lisk ont décidé de se marier en 2001, s'unissant ainsi que leurs enfants respectifs. Hein, c'est une famille recomposée. Alors que Suzanne avait deux fils de son précédent mariage, nommés Devon et Derek, William en avait appelé un William B.J. Jr. Les fils de Suzanne avaient de bonnes relations avec William en ce qui concerne le beau-père et le beau-fils. Cependant, on ne peut pas dire que B.J. ait fait preuve de la même courtoisie envers Suzanne, sa belle-mère. Malgré de multiples tentatives pour rétablir la paix entre les deux, les conflits ne faisaient que s'envenimer au fil du temps. Il faut savoir que lorsque la police a examiné l'historique criminel de B.J., il avait tout un casier judiciaire. En 2002, alors qu'il avait 16 ans et était assigné à résidence, il avait menacé de se faire du mal après une dispute avec son père, William. C'est la première fois que Bill, souvent je vais l'appeler Bill là, pour différencier, là, doit appeler la police pour venir chez eux car son père ne savait pas comment l'arrêter. Lorsque la police est arrivée, B.J. les a attaqués. Donc, première intervention. En 2004, en octobre, il s'était disputé avec Suzanne. Il lui avait donné un coup de poing à la poitrine. Il avait frappé Suzanne aussi avec une tasse à café 2 mois seulement après cet incident, avant de s'enfuir avec ses clés de voiture. Peu de temps après, il avait également attaqué sa belle-mère sous la douche. Tu sais, c'est fou, là. Son agressivité envers elle s'est intensifiée avec les années. B.J. n'aimait pas l'autorité que sa belle-mère tentait d'exercer sur la maison.
Il y a des limites, là, attaquer quelqu'un sous la douche, ça n'a pas de bon sens.
Ah non, c'est
assez... Je dis, tu dois te sentir tellement vulnérable en plus. Là OK, quelqu'un qu'elle connaissait, il y a une réaction qui est associée à ça. Mais se faire attaquer pendant qu'on est sous la douche ou dans le bain... Ça doit être cauchemardesque. Là. Gars comme les hommes autant que les femmes, t'es vulnérable au maximum. Là,
oui, t'as raison.
C'est mêlant, c'est gênant, tu peux pas te protéger.
On dirait qu'on est plus fragile.
On est très fragile.
Mm-hmm. T'as bien raison. Cependant, après chaque acte d'agression, B.J. a été amené au poste soit par les flics, soit par son père. La police l'a ensuite relâché parce qu'il n'était pas apte à subir son procès. C'est ça l'affaire. Au lieu de cela, il a été amené dans un établissement psychiatrique pour se reposer avant que William, son père, ne redemande sa tutelle, étant donné qu'il est adulte. Donc, il avait besoin de reprendre possession des droits, là, si on veut, de l'autorité. Là. Par la suite, les charges étaient toujours abandonnées contre lui. Donc, il n'a jamais vraiment fait de prison pour ces gestes-là. Mais cela ne semblait pas fonctionner. B.J. a été impliqué dans plusieurs bagarres avec son père, ce qui a entraîné encore une fois l'appel à la police à 3 autres reprises. Essayant d'obtenir l'aide dont B.J. avait besoin, sa famille l'a transféré dans un foyer de groupe à Sandusky où il recevait un traitement pour un trouble de schizoaffectif de type bipolaire. Donc, il est malade, là. Mais malgré tout, le père de BJ, Bill, essayait toujours de garder son fils dans sa vie et d'éviter les ennuis. Honnêtement, il a toujours bien fait les choses. Il rendait souvent visite à son fils à la maison de transition dans laquelle il vivait. Puis même la semaine avant le drame, là, il a fait un effort là, pour rétablir sa relation avec lui. Il l'avait amené en vacances dans une retraite pour faire la chasse aux cerfs, en fait. Tout semblait bien aller lorsque BJ et William sont revenus sains et saufs 24 heures avant les meurtres. Le soir de leur retour, le 30 octobre, le père et le fils ont beaucoup bu avec des voisins jusqu'à autour de minuit. Mais Bill a permis à BJ de rester, de dormir sur le divan pour la nuit parce qu'il ne voulait pas qu'il retourne dans sa maison de transition sous l'effet de l'alcool. Je pense que ce n'est pas bien vu non plus. Il préférait qu'il dorme à la maison. Le reste appartient à l'histoire. Rapidement, la police a appréhendé BJ dans le même camp de chasse où il était resté pendant ses vacances avec son père dans le comté de Carroll. Les dernières traces numériques de Derek remontent pour la dernière fois à 14 heures le 30 octobre, soit la veille. Sur la base de plusieurs facteurs, il a été déterminé que Derek avait été tué avant Bill et sa mère Suzanne. Puis c'est pour ça justement qu'il aurait utilisé le gun à clous, parce que c'est plus silencieux qu'un fusil.
Je comprends, mais en même temps, c'est ça, vu que tu as amené la maladie mentale là, dans tout ça, je comprends un petit peu mieux. J'avais beaucoup de misère à croire qu'un enfant, un jeune adolescent normal, là, a priori, ait eu une stratégie aussi travaillée que de penser à tous ces détails-là. Je dis pas que ça arrive jamais. Là.
C'est vrai.
Je suis pas surpris. Là. Je sais que ça arrive, mais c'est des cas très spécifiques. À cet âge-là, c'est souvent la maladie mentale. Ouais. Sinon, les parents, c'est des bourreaux, puis ça vient de quelque part. Dans ce cas-ci, on semblait pas être là.
Non, pas du tout.
C'est pour ça que j'avais hâte de voir où ça menait. J'avais beaucoup de misère à croire que ça pouvait être un membre de la famille.
Mais je comprends. Puis je voulais pas trop te spoiler, mais c'est... Tu sais, selon certains, il y a des choses qui auraient pu arriver différemment. Là, je vais y revenir, là, mais ça reste que c'est ça. Malgré tout, c'est difficile à contrôler. Hein, ça,
c'est,
il n'était pas bien dans l'environnement familial.
Tu peux juste faire de ton mieux. Parce que ça peut te prendre par surprise de tellement de manières.
Puis ce qui est étrange, c'est qu'il n'habitait plus là. Donc, est-ce qu'il a mis ça un peu sur sa faute à elle? Peut-être aussi, là, par association. Bref, je continue mon histoire. Élément particulier aussi, lorsque Devon est rentré chez lui après avoir passé le week-end avec son père à 9h30 le matin, le 31 octobre, là, avant d'aller à l'église, il n'est resté que le temps de changer de chemise pour partir ensuite à l'église. À ce moment-là, il n'a rencontré que BJ dans la maison, son demi-frère. Il y a même parlé. Il est resté 5 minutes avec lui. Mais dites-vous qu'à 9h30, toute la famille était déjà morte. Elle était morte depuis au moins, les parents depuis au moins 6h30. Mais lui, il ne s'en est pas rendu compte. Il est rentré dans la maison, il est allé chercher sa chemise, puis il a parlé, puis il écoutait ça. Pour continuer sur la brève conversation entre Devon et BJ, celle-ci lui parut étrange, car BJ lui a demandé où il allait et pour combien de temps il serait parti. Ce qu'habituellement, il ne fait
pas.
Ça
l'intéresse pas en temps normal.
Exactement, là, il s'en soucie très peu. Et il trouvait aussi qu'il avait l'air plus heureux et qu'il était plus bavard que d'habitude.
Ça arrive souvent.
Il était libéré.
Ça arrive souvent. J'ai raconté une histoire justement dernièrement, Dynamite.
Oui.
Je ne la résumerai pas, là, vous irez l'écouter. Mais justement, dans les dernières semaines avant le drame, c'est la même affaire. La personne, le responsable, elle a l'air sur un ton léger. Il était très bavard. Il parlait plus qu'à son habitude. Il était très introspectif. On a l'impression qu'on voit ça souvent. Comme si, pendant un temps, leur décision est prise. Ouais. Puis là, soudainement, ils deviennent plus légers. Ben, je trouve ça terrifiant, moi, ça.
Ben oui, c'est comme s'il y avait un poids sur les épaules. Quand on se sent plus léger, là, c'est qu'on est libéré de quelque chose.
On avait un
poids sur les épaules. C'est toujours... On passe du négatif au positif, généralement, là, quand on se sent libéré. Donc, c'est... Encore une fois, tu vois qu'il y avait ça.
À travers ces histoires-là, on les vit juste en parole. On dirait qu'on le sent pareil, cette douleur-là. Ça fait mal.
Après que Devon ait quitté la maison, BJ est parti dans le Ford F-150. Il y a toujours un Ford F-150 dans notre histoire.
Bien sûr.
De la famille et s'est rendu directement à la cabane de chasse. Il s'est arrêté en chemin et s'est acheté un Subway. Ça, c'est important dans un certain sens. Okay. Finalement, B.J. Lisk est accusé de meurtre et son père, il est accusé du meurtre de son père, de sa belle-mère et de son demi-frère, Derek Griffin. Les preuves ont confirmé que l'ADN du père, de la belle-mère et du demi-frère se sont retrouvés sur les vêtements de B.J. Aussi, le Subway était resté au chalet. En fait, le Subway qu'il avait acheté en chemin était resté au chalet. Il n'a même pas pris le temps de le manger. Donc,
il avait trop hâte de se libérer de son poids.
Exactement. Puis ça, automatiquement, ça a fait une corrélation. Ils sont allés vérifier la transaction sur sa carte, etc. Lors d'une conversation téléphonique aussi, en prison avec sa mère, hein, parce que sa mère est toujours en vie, il a avoué son crime d'une certaine façon. Elle lui a comme demandé « Pourquoi t'as fait ça? » Puis lui a juste dit « Je veux pas te parler de ça. » Puis c'était une forme d'incrimination, mais...
Quelqu'un qui n'est pas, qui est pas responsable n'aurait jamais répondu
non,
quelque chose
exactement.
Comme ça.
Ben... Puis lorsqu'il a été arrêté, il voulait plaider non coupable, mais après la conversation avec sa mère, il a changé son verdict pour coupable.
Intéressant.
En fait, donc ça a dû lui...
on pourrait dire ça, il a joué dans... Oui, ça l'a travaillé, j'allais dire, il jouait dans la tête, mais c'est ça. On dirait que ça a changé son fusil d'épaule par rapport à son point de vue.
Oui, exactement. Et à cause de ça, quand tu plaides coupable, ça permet que à cet endroit, aux États-Unis, que la peine de mort soit retirée de la table, mais prison à vie sans libération conditionnelle là, qui la remplace.
Je ne le savais pas, ça.
Je ne sais pas si c'est dans tous les États, mais dans ce cas-ci, c'est le cas. Pendant le procès, il a parlé généralement sans émotion, même lorsqu'il a dit « J'aimais beaucoup mon père et ça me rend malade à chaque fois que je pense à ce que j'ai fait. Je ne peux vraiment pas expliquer pourquoi tout cela est arrivé, mais je pense que ça a surtout à voir avec ma maladie mentale. » Fait qu'il y a une forme de lucidité, là, quand même.
Ah oui, la maladie mentale, ça veut pas dire que t'es un idiot, là.
C'est juste que
ton cerveau va prendre va avoir des réflexions qui font pas nécessairement de sens ou qui t'amènent ailleurs que ce que la logique t'amènerait.
Exactement. Même pendant le procès, les voisins se sont manifestés. Eux, ils pensent également que B.J. a tué et torturé plusieurs animaux de compagnie au fil des années dans le quartier. Même s'ils l'ont jamais pris en flagrant délit, mais il y avait, ça a l'air qu'il y avait une problématique à une certaine époque. Il y avait toujours des animaux qui se faisaient tuer et torturer, donc dans le coin, mais c'est dur à prouver. Surtout dans les années 2000-2010, il n'y avait pas tant de caméras comme aujourd'hui. Installé un peu partout. Donc, il n'y a jamais eu de preuves de tout ça. Par contre, pour conclure cette histoire tragique, en 2015, à l'âge de 29 ans, B.J. s'est suicidé en prison. Donc, c'est un peu la fin de la famille William Lisk, hein, parce que oui, il y a sa mère, mais au terme du nom de famille, son père n'est plus, là, donc, et lui non plus. Donc, il n'y aura pas de descendance d'une certaine façon. Donc, c'est triste. En même temps, je peux comprendre son geste. Là, je ne sais pas de quelle façon il le fait en prison. Là. Généralement, c'est toujours un peu plus complexe, mais...
mais c'est parce qu'ils ne sont pas traités non plus. Hein.
Exact.
Ça, c'est un vrai problème qu'on a. Hein, Si tu n'es pas apte à subir ton procès puis qu'on t'envoie dans un hôpital psychiatrique, tu vas avoir des traitements, tu vas avoir de l'aide, tu vas avoir du soutien pour ce que tu as. Mais si ils considèrent que tu es lucide puis que tu t'en vas en prison, même si tu as de la maladie, il n'y a pas personne qui va t'aider avec ta maladie mentale en prison. On avance tranquillement là, pour améliorer la chose, mais on est encore loin de là. Puis d'ailleurs, là, je vais faire une plug pour une amie. En même temps, je me prends beaucoup d'avance, mais je vous invite à rester attentif et à surveiller ça. Il y a mon ex-copine et une de mes meilleures amies aujourd'hui, Laurence Côté-Collins, est réalisatrice. Mm-hmm. Elle travaille d'ailleurs incessamment, j'ai pas la date, mais bientôt, je pense que sort son prochain film de fiction qui va s'appeler Bungalow, mais là, on est une comédie, ça, c'est pas important. Elle travaille présentement sur un documentaire avec un gros élan artistique, là, c'est pour ça que documentaire artistique, disons.
OK.
Elle a une amie de longue date qui faisait du cinéma kino avec elle à l'époque. Présentement, ce garçon-là, on peut le nommer, il s'appelle Billy. Il est en prison pour meurtre, double meurtre.
Okay.
Je résumerai pas l'affaire, c'est pas ça qui est important ici, mais lui, il était là en prison, il est pas allé dans un institut psychiatrique. Sauf que c'est de la schizophrénie qui a Billy. C'est ça qui l'a mené au meurtre. Il n'y a aucune conscience. Puis là, le documentaire qui s'en vient, en fait, c'est la relation entre Laurence et son ami Billy. À travers les lettres qui s'écrivent, à travers ses visites à Laurence en prison, comme s'il était un couple, elle va passer du temps en prison avec lui, ils se parlent par téléphone à tous les jours. Ça fait au moins 4 ou 5 ans qu'elle travaille sur ce film-là. Ça va être quelque chose, ça va être dur, ça va être rough, mais on va avoir un regard différent de ce qu'on a eu à date. Mm-hmm. Je ne dis pas que d'autres ne l'ont pas fait, là, mais Laurence va le faire à sa manière. On va avoir un regard et une réflexion sur les problématiques de la maladie mentale par rapport à la criminalité. On en parle encore aujourd'hui à quel point c'est difficile avec la police de gérer ça dans les... Et quand ils font des interventions, mais c'est la même chose en prison. Là, on a des tonnes de gens, même pas de... Laissons faire la criminalité, on a des gens malades en prison.
Ah ben oui.
Qui n'ont pas de soutien, ils n'ont pas d'aide. Billy, là, ça a pris des années avant qu'il prenne conscience de sa schizophrénie et qu'il ait de l'aide dans ce sens. Mm-hmm. Pendant ce temps-là, lui, là, il faisait des crises de psychose dans sa cellule, à halluciner des voix, puis il n'y a personne qui venait l'aider. C'est difficile, c'est un sujet qui est rough. C'est difficile à le prévoir avant le crime, mais il ne faut pas oublier de les soutenir après leur arrestation aussi. Ces gens-là ont besoin d'aide.
Oui, exact. Ben oui, la prévalence de maladies mentales est beaucoup plus élevée dans la population carcérale.
Voilà. Exact.
Mais pour clore, là, Laurence Côté-Collins, la réalisatrice, à ma connaissance, son documentaire va s'appeler tout simplement Billy. Et c'est encore en production, est en tournage encore cette semaine. Mais ça va venir éventuellement, si vous voyez ça, ça va être un documentaire coup de poing.
Intéressant.
Merci de la plug, Simon. Merci de ton histoire, Seb.
Ça fait plaisir.
Yes, merci les gars pour toutes vos histoires.
Merci de l'invitation, comme d'habitude.
Ben oui. Yeah. Hey, là, on se rejoint. En fait, on se rejoint. On a encore deux histoires
trois même.
Pour nos abonnés, en fait, Patreon au forfait Oui, monsieur, pour notre after show. Donc, le spécial Halloween se continue sur Patreon pour nos abonnés. Pour les abonnés, Patreon d'Ars Moriendi aussi, d'ailleurs.
Certains.
Ont accès à cet épisode. Donc, on se revoit de l'autre côté du miroir dans quelques minutes. Mais avant de quitter, on voulait vous remercier, chers auditeurs, de nous suivre. Merci de nous suivre. Distorsion partout sur les différentes plateformes. Merci de suivre Ars Moriendi.
Vous êtes bien fin.
Simon Predge aussi. Ça nous fait plaisir. T'es bien fin, toi, avec. Sur toutes les plateformes, n'oubliez pas de suivre nos Disto News sur TikTok aussi. Très important. Et en fait, pour terminer, on n'a pas le choix de remercier quelques membres Patreon, mon cher Seb, sans qui on pourrait faire ce show.
Oh oui, j'y vais. Je remercie Kim L. G., Marc-André C., Ninon M., Mathieu L. et Noémie G.
Un gros shout-out à Catherine M., à Catherine S., double Catherine, à Audrey B., à Sarah A. et à Alexia L.
Je vais en remercier moi aussi. J'ai pas rien préparé, malheureusement. Là, je n'aimerais pas une tonne de Patreon, mais il y en a deux qui sont très vocales, qui soutiennent beaucoup le podcast Ars Moriendi. Marinette et Jade, vous reconnaissez. Merci les filles.
Shout-out.
Shout-out à vous. Je poursuis avec beaucoup d'amour pour Gabrielle R, Léo, Pierre-Luc M, Sabrina G et Hélène M.
Aussi, un gros câlin à Tristan B, à Maggie, à Aude MS, à Johnny Cash, probablement le vrai qui nous surveille de l'au-delà, et à El Gizmo.
Un high-five à Julie B, le mystérieux ou la mystérieuse Madni, Myriam, Jeannette C et Calito.
Beaucoup d'amour à Ronnie Pepperoni, à Roman, à Zempizoul, à Jessica L. et à Kat C.
Je poursuis l'amour avec Sabrina, Zachary Element, Emily D., El Foufi, Alexis G.R.
Une bonne poignée de main à Pascal L., à Burn, aussi à MC, à Gonzo et à Jérémy B.F.
Je poursuis Stéphanie B, Lauriane, Antoine F, Alexandra S et Frédéric B.
Écoute, vous n'avez plus que moi, je vais dire hey, merci, papa.
Shout out, papa Predge. Mais pour terminer, un gros high five à Daphné V, à Fred The Wall, à Valérie C, à Andréane B et Jocelyne B. Merci à vous tous. On ne saurait exister sans votre présence. Merci Simon, merci Seb et on se revoit tout de suite dans l'After Show sur Patreon.
Merci tout le monde. Bonne Halloween.
Oui.
Oh oui.